C'est l'histoire de la disparition d'un père et de sa fille, et d'une mystérieuse noyade au large de l'Angleterre. L'histoire de deux affaires qu'un océan sépare, et qui, en apparence, n'ont aucun lien. Pourtant, ces deux enquêtes parallèles vont se rejoindre pour révéler une sinistre manipulation. Pour rassembler les pièces de ce puzzle, il faudra faire appel aux ressources policières de quatre pays différents. Vous écoutez Interpol, la double vie d'Albert Walker, première partie.
Au mois de décembre 1990, une mère vit son pire cauchemar. Son histoire commence à Brantford, au Canada, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Toronto. Pour Barbara Walker, cette période de fête va être particulièrement éprouvante. Elle a laissé sa fille âgée de 15 ans partir faire du ski avec son ex-époux Albert en Suisse. Barbara traverse alors une période difficile.
La dernière fois que nous avons discuté, c'était de mon problème de santé. J'avais très peur qu'on me diagnostique un cancer. Cela a été notre dernière conversation avant qu'elle ne disparaisse.
Mais à la fin des vacances, sa fille et son ex-époux ne réapparaissent pas. Après avoir désespérément tenté de les contacter, Barbara se résout à signaler leur disparition à la police.
J'étais désespérée. Comment allais-je pouvoir les retrouver à l'autre bout du monde?
Mais Barbara reçoit des nouvelles encore plus alarmantes. Il manque plus de 500 000 euros sur le compte de Walker Financial Service, la société dirigée par Albert, l'ex-mari de Barbara. Depuis plus de 10 ans, Walker Financial place d'importantes sommes sur des plans d'épargne retraite pour le compte de ses clients.
Ils ont été assaillis de coups de téléphone, et puis les gens ont commencé à se déplacer.
Bill Schiller, journaliste pour le Toronto Star.
Ils paniquaient parce qu'ils avaient investi tout leur argent dans cette société. Certains d'entre eux étaient assez âgés et ils avaient placé chez Walker Financial les économies de toute une vie.
Les enquêteurs canadiens apprennent qu'Albert Walker a effectué des achats en Suisse avec sa carte de crédit et n'a jamais utilisé son billet de retour. Il contacte alors Interpol. John Imhoff, ancien directeur du bureau d'Interpol aux États-Unis.
Tout ce qu'un officier de police doit faire pour qu'Interpol ouvre une enquête, c'est appeler le bureau de l'organisation à Ottawa, indiquer qu'il est représentant de la loi et qu'il a besoin d'aide.
Interpol émet alors un avis de recherche international appelé Notice jaune, portant sur Albert et Amanda Walker. Cette mesure reste sans résultat et les années passent.
Un grand nombre de notices sont plusieurs dizaines d'années, ce n'est pas rare. Interpol offre son assistance, c'est-à-dire qu'elle conserve une notice aussi longtemps que l'enquêteur en aura besoin.
À 5000 km de là, au large du comté de Devon, sur la côte sud de Grande-Bretagne. Un chalutier remonte son filet qui a reposé toute la nuit sur le fond de la mer. L'équipage est épouvanté par ce qu'il trouve. Un corps pris dans le filet. Les gardes-côtes de Sa Majesté reçoivent un appel de détresse du pêcheur. Ils escortent le bateau jusqu'au port de Brixham. On fait venir l'inspecteur Ian Clenahan sur les lieux. Il s'attend à ce que le corps soit celui d'un jeune homme disparu en mer une semaine plus tôt dans un accident de bateau.
Son corps n'avait pas encore été retrouvé et il y avait de fortes probabilités pour que le corps remonté par ce pêcheur soit celui du jeune disparu.
L'inspecteur ne veut exclure aucune hypothèse.
Je suis monté à bord du bateau. C'était un corps de sexe masculin, encore tout habillé.
Le corps semble avoir passé un certain temps dans l'eau.
Je n'ai trouvé aucune pièce d'identité sur lui. Les poches de son pantalon étaient retournées.
L'inspecteur Clenahan envisage l'hypothèse du vol, mais l'homme porte une montre qui ressemble à une Rolex.
Nous ne savions pas s'il s'agissait d'une véritable Rolex ou d'une imitation.
L'inspecteur Clenahan ne veut pas écarter la possibilité d'un vol.
J'ai examiné la montre sur le bateau et j'ai remarqué qu'elle s'était arrêtée à 11h35 et que le cadran de la date affichait le chiffre 22.
Sur la main de la victime, l'inspecteur remarque également un tatouage estompé qui rappelle vaguement une étoile. Lorsque le médecin examinateur arrive sur les lieux, l'inspecteur Clenahan attire son attention sur une profonde entaille située derrière la tête de la victime. La police du comté de Devon fait transférer le corps au laboratoire médico-légal. Le premier examen de routine consiste à prendre les empreintes digitales, ce qui peut s'avérer difficile sur un corps qui a passé un long moment dans l'eau.
La peau des mains se fripe et il est très difficile de prendre les empreintes digitales.
Mais le docteur Fernando parvient à prélever une empreinte utilisable. Selon le médecin légiste, le corps s'est bien conservé dans les eaux glaciales du fond de la Manche. Il relève trois lésions, une contusion sur la hanche et une autre sur le milieu de la cuisse, qui selon lui sont postérieures à la mort. La troisième lésion, une profonde entaille à l'arrière de la tête, est plus énigmatique. Le docteur Fernando est incapable de déterminer si la blessure est antérieure ou postérieure à la mort. L'examen des poumons permet d'établir avec certitude que le décès est dû à la noyade.
À ce stade, je ne disposais que de quelques lésions, et elles n'étaient pas très parlantes. Il est assez fréquent de trouver des contusions sur les noyés, et à ce stade, il était impossible d'affirmer avec certitude qu'il s'agissait d'un homicide.
Les effets personnels de la victime sont placés dans des sacs et examinés par les experts en criminalistique. Un autre point laisse le docteur Fernando perplexe. Rien ne permet d'établir l'heure de la mort. En effet, lorsqu'un corps passe plusieurs jours dans l'eau, il peut être difficile de savoir quand le décès a eu lieu.
Tout ce que je pouvais dire, c'est qu'il était resté une ou deux semaines dans l'eau.
Les pistes sont maigres. Trois lésions d'origine inconnue, aucune pièce d'identité et pas d'indice sur les conditions de la mort. Le médecin légiste décide de congeler le corps au cas où d'éventuels examens ultérieurs s'avéreraient nécessaires. Les autorités du comté de Devon comparent les empreintes digitales de la victime avec celles des criminels figurant sur leur base de données. Aucune ne correspond. Plusieurs jours passent. Un second corps est trouvé au large du port de Brixham. Mais il n'a aucun lien avec l'affaire. Les gardes-côtes établissent qu'il s'agit d'un jeune homme tombé à l'eau lors d'un accident de bateau. L'identité de l'autre corps reste mystérieuse.
Nous devions tenter d'identifier la victime,
inspecteur Ian Clenahan,
et trouver les circonstances exactes de son décès.
Mais la montre de la victime pourrait bien être la clé de l'énigme. Rolex tient un registre de toutes ses montres. Ainsi, si son propriétaire la fait réparer, il y aura une trace avec un nom. Les enquêteurs expédient la montre au siège de Rolex. Puis, en fouillant les vêtements de la victime, l'inspecteur Clenahan découvre un indice de taille.
Nous avons examiné les étiquettes de ces vêtements et un grand nombre provenaient de fabricants canadiens.
De l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, cela fait maintenant 5 ans que l'ex-époux de Barbara Walker et sa fille ont pris l'avion pour la Suisse.
C'était vraiment très difficile. Si j'y pensais trop, je devenais folle.
Barbara vit dans l'angoisse, refusant d'imaginer le pire, espérant qu'un miracle se produise et que sa fille ainsi que son ex-époux soient retrouvés.
Je n'ose pas imaginer ce qu'elle a dû ressentir. C'est une situation tragique pour une mère.
Bill Schiller, journaliste pour le Toronto Star.
J'imagine que cela a dû être très difficile.
Deux affaires sans lien apparent. Une fille et son père portés disparus. Et un corps retrouvé dans la mer. Sur leurs continents respectifs, les enquêteurs ignorent encore que les deux affaires sont liées, qu'elles font toutes deux partie d'une sinistre manipulation. Dans le comté de Devon, en Angleterre, l'inspecteur Ian Clenahan tente de résoudre le mystère de l'homme trouvé mort dans la Manche. Il sait maintenant que la montre de la victime est susceptible de lui fournir un indice qui permettra de remonter la piste de son propriétaire.
Nous avons donc expédié la montre au siège de Rolex en Angleterre, qui l'a examinée, et nous a informé qu'elle avait été réparée 3 fois, à proximité d'Harrogate, dans le Yorkshire. À ces 3 occasions, la personne qui avait déposé la montre s'appelait Neil Barrett.
Neil Barrett. À présent, les enquêteurs disposent d'une piste pour identifier cet homme qui gît à la morgue. Son dernier lieu de résidence connu se trouve à Chelmsford, au nord-ouest de Londres et à 5 heures de route du comté de Devon. L'inspecteur Clenahan remet donc l'affaire entre les mains des services de police locaux.
J'avais donc pour mission d'aller à Chelmsford et de demander si quelqu'un connaissait ce type.
L'inspecteur Peter Redmond se rend à l'adresse de la maison louée par Barrett. Mais il la trouve vide et se met à la recherche de son propriétaire.
Il m'a dit que Neil avait donné son préavis et était parti pour la France, où il voulait monter une affaire.
Le propriétaire de la maison donne à l'inspecteur Redmond une copie du bail de Neil Barrett. Celui-ci indique qu'un certain Steve Russell s'est porté caution. L'inspecteur Redmond appelle Steve Russell, qui propose de passer au poste de police pour répondre à ses questions.
Le but de cette rencontre avec Steve Russell était de récolter des informations supplémentaires sur Neil qui pourraient aider à identifier le corps. Car si j'avais bien compris, le corps n'était pas en état d'être identifié par un ami. Nous avons longuement discuté. C'était un type sympa. Il parlait bien et était bien habillé. Il portait des vêtements sport, mais de beaux vêtements, qui avait coûté cher, et il avait l'air assez sûr de lui. Il avait un accent, mais je n'arrivais pas à déterminer s'il s'agissait d'un accent nord-américain ou canadien. Je voulais savoir quand il l'avait vu pour la dernière fois et quels étaient ses projets, car nous ne comprenions pas comment il avait pu aller en France et finir dans la mer au large du Devon.
Steve Russell n'a pas la réponse à cette énigme. Mais il donne à l'inspecteur de précieuses informations. L'inspecteur Redmond apprend que Neil Barrett a servi dans l'armée.
L'armée a retrouvé le dossier médical et dentaire de Neil Barrett et l'a envoyé au comté de Devon. Alors, la police locale a constaté que les empreintes dentaires de la victime correspondaient à celles du dossier.
Le corps est donc identifié comme étant celui de Neil Barrett et l'affaire semble close. La police ne trouve aucun élément indiquant qu'il y a eu manipulation.
Ils ont identifié le corps. Aucun élément n'indiquait qu'une tierce personne était responsable de la mort de la victime. On a conclu à un accident, une noyade. Pour moi, l'affaire était close.
L'inspecteur Clenahan contacte le frère de Neil Barrett pour l'informer des faits et clore l'enquête. Celui-ci informe l'inspecteur Clenahan que le tatouage relevé sur la main de la victime représente une feuille d'érable canadienne. Il demande à l'inspecteur Clenahan de le mettre en relation avec Steve Russell pour récupérer les biens personnels de son frère. L'inspecteur Clenahan fait encore une fois appel à Peter Redmond et lui demande de rendre visite à Steve Russell dans son petit village rural. Dans l'arrière-pays anglais, les maisons n'ont souvent pas de numéro de rue. Au lieu de cela, elles ont un nom. L'inspecteur Redmond ne parvient pas à trouver la maison de Russell.
J'ai trouvé deux maisons qui n'avaient pas de nom. Alors j'en ai choisi une au hasard, qui s'est révélée être celle du voisin. Je me suis présenté et j'ai expliqué que je cherchais Steve Russell. Alors il m'a répondu non, c'est Neil Barrett qui vit ici. Et je me suis tout de suite dit que quelque chose n'était pas normal. C'était le nom de l'homme qu'on avait retrouvé mort dans le Devon.
Redmond interroge les voisins. Que savent-ils de cet autre Neil Barrett? Très vite, ils découvrent que l'homme en question présente de fortes ressemblances avec Steve Russell.
Quand ils m'ont décrit l'homme qu'ils connaissaient sous le nom de Neil Barrett, ses manières, son accent, il m'a paru évident qu'il s'agissait de la même personne sous deux noms différents.
L'homme que les voisins décrivent est en fait celui que l'inspecteur Redmond connaît sous le nom de Steve Russell.
Alors, cette simple enquête visant à identifier un corps est devenue une potentielle affaire de meurtre. L'homme que je cherchais vivait sous l'identité de cet autre homme. Pour moi, tout cela cachait quelque chose de machiavélique. La mort de Neil était-elle liée à cette usurpation?
De retour au poste de police, Redmond appelle l'inspecteur Clenahan pour lui faire part de ces éléments.
Il m'a dit qu'il avait trouvé de nouveaux éléments à Widam Walter et que ces indices permettaient de faire avancer l'enquête.
Mais ce que les enquêteurs ignorent, c'est que ces nouveaux éléments vont les lancer à la poursuite d'un dangereux criminel connu des services internationaux. Au Canada, les services de police commencent à comprendre que l'affaire Albert Walker est bien plus complexe qu'elle ne semblait l'être au premier abord. La disparition de Walker et de sa fille coïncide en effet avec celle d'une grosse somme d'argent sur le compte de sa société. Il apparaît maintenant que Walker a pillé sa propre entreprise.
J'ai trouvé des relevés bancaires qui indiquaient que de grosses sommes d'argent avaient été transférées sur son compte personnel. Je savais que ce n'était pas le sien parce que nous n'avions pas tout cet argent.
Barbara Walker.
Cet argent devait donc provenir soit de la société, soit de ses clients.
Il avait laissé sa femme affronter les foudres de ses clients.
Bill Schiller, journaliste pour le Toronto Star.
Les gens ont été surpris qu'un homme en apparence aussi sérieux, aussi charmant et généreux, puisse les voler et disparaître avec leurs économies.
La police canadienne lance 19 chefs d'accusation pour vol, fraude et blanchiment d'argent à l'encontre d'Albert Walker. Il demande à Interpol d'émettre une notice rouge contre Albert Walker. Ce dernier prend alors la quatrième place sur la liste des criminels les plus recherchés par Interpol.
La notice rouge est une version électronique de l'avis de recherche que l'on affichait autrefois à la poste.
John Imhoff, ancien directeur d'Interpol aux États-Unis.
Interpol communique cette notice à 181 pays, de sorte que si le suspect est aperçu chez eux, il puisse l'appréhender et l'extrader pour qu'il comparaisse devant la justice canadienne.
Mais trouver Albert Walker promet d'être difficile. Celui-ci a apparemment changé d'identité.
Nous avons eu beaucoup de mal à retrouver sa trace parce qu'il était particulièrement malin. Monsieur Walker n'était pas un homme excessivement intelligent. Ce n'était pas un intellectuel, mais dans le domaine du crime, il était dangereusement doué.
Mais Walker n'a jamais encore été confronté à Interpol et il s'apprête à rencontrer un adversaire à sa taille.
Vous venez d'écouter Interpol. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Interpol est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Tom Naughton, Paul Sauer et Michael Eldridge. Il a été réalisé par Joe Wisha. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Alix Martineau.